Bienvenue à bord avec Youtour. Bienvenuti à Firenze, bienvenue à Florence, la cité de la Renaissance, le cœur de la Toscane et le joyau de l'art et de l'histoire italienne. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'entrer dans l'un des édifices les plus extraordinaires d'Italie, le Palazzo Vecchio. Depuis plus de 700 ans, ce palais-forteresse demeure le cœur battant de Florence, centre politique, théâtre du pouvoir, écrin d'art et témoin de quelques-unes des histoires les plus dramatiques de l'histoire européenne. Levez les yeux vers ces murailles médiévales, ces créneaux, et la tour d'Arnolfo qui s'élève dans le ciel toscan. Ce n'est pas seulement de la pierre. C'est la mémoire de Florence. Et aujourd'hui, grâce à ce parcours audio, vous allez traverser non seulement ces salles, mais aussi des siècles d'intrigues, de gloire et de légendes. L'histoire du rez-de-chaussée du Palazzo Vecchio. Franchissez avec moi le seuil du Palazzo Vecchio, ce palais-forteresse qui protège Florence depuis plus de 7 siècles. Son rez-de-chaussée est le commencement du voyage, un espace où la pierre et le silence murmurent les premiers secrets du pouvoir de la cité. L'entrée fortifiée. À la fin du XIIIe siècle, lorsqu'Arnolfo di Cambio conçut le palais, le rez-de-chaussée fut pensé autant comme une forteresse que comme un siège du gouvernement. Le portail d'entrée fut construit délibérément étroit et facilement défendable, permettant aux gardes de contrôler le passage. Au-dessus, la République florentine exposait des armoiries et des symboles peints, rappelant à tous les visiteurs qu'il s'agissait de la maison de la cité, et non d'un roi ou d'un seigneur. En entrant, imaginez le fracas des armes et le murmure des gardes civiques. Le pavage de pierre sous vos pieds résonnait autrefois des pas des soldats chargés de protéger les prieurs, les magistrats qui gouvernaient la ville et résidaient à l'étage. Le rez-de-chaussée était leur bouclier. La cour de Michelozzo. Au-delà du passage gardé, vous voici dans un carré de calme, la première cour, conçue en 1453 par Michelozzo, l'architecte favori des Médicis. Là où se trouvait jadis une cour médiévale austère, Michelozzo créa un espace raffiné, semblable à un cloître. Des colonnes de stuc et de grès bordent l'espace, chacune ornée de délicates décorations. Observez bien leurs bases et leurs chapiteaux, masques grotesques, feuillages et emblèmes héraldiques y abondent. Plus haut, les voûtes fleurissent de fresques, contrepoint plus doux aux murailles extérieures. Cette cour n'était pas seulement un plaisir architectural. Elle portait aussi un message. Au milieu du XIe siècle, Cosme de Médicis voulait adoucir la sévérité républicaine de Florence par une élégance nouvelle, digne de l'influence grandissante de sa famille. Les visiteurs d'Italie et d'ailleurs devaient se sentir à la fois impressionnés et à l'aise. Les fresques de terre lointaine. En 1565, un siècle après l'œuvre de Michelozzo, Giorgio Vasari et ses assistants décorèrent les murs de la cour de fresques commandée par le duc Cosme Ier de Médicis. Ce n'étaient pas des peintures ordinaires. Elles représentaient les villes soumises à la domination des Médicis ainsi que des paysages des terres des Habsbourg d'Autriche célébrant le mariage du fils de Cosme, François, avec Jeanne d'Autriche. L'effet était autant politique que symbolique, chaque visiteur traversant le rez-de-chaussée se trouvait entouré de preuves peintes de la puissance des Médicis, de leurs alliances et de leur rayonnement international. Les murs eux-mêmes parlaient de l'influence florentine bien au-delà de la Toscane. La fontaine du Puteau avec dauphin. Au centre de la cour, l'eau ruisselle dans une petite fontaine gracieuse. Sa figure de bronze, un enfant luttant avec un dauphin, fut créée par Andrea del Verrocchio, maître de Léonard de Vinci. Installée ici au XIIe siècle, elle apporta vie et musique à l'espace. Imaginez son eau fraîche désaltérant gardes, clercs et nobles visiteurs. Avec le temps, la fontaine devint non seulement une décoration, mais aussi un symbole de l'ingéniosité florentine et de la maîtrise du bronze, art qui prospérait alors dans les ateliers de la Renaissance, à quelques pas d'ici. L'armurerie et les salles de service. Autour de la cour et au rez-de-chaussée se trouvaient les pièces de service du palais, entrepôts, écuries et surtout l'armurerie. Les armes y étaient tenues prêtes en cas d'émeute ou d'attaque étrangère. En temps de danger, la cour pouvait être transformée rapidement en point de rassemblement militaire, rempli d'hommes armés prêts à défendre la République ou, plus tard, les ducs Médicis. Imaginez le contraste. Un jour la cour accueillait une réception fastueuse pour des ambassadeurs étrangers, le lendemain elle résonnait du fracas de l'acier et des cris des soldats. Une porte vers le pouvoir. Ainsi, le rez-de-chaussée du Palazzo Vecchio n'était jamais un simple passage. C'était une mise en scène politique, mélange de pragmatisme défensif, de propagande médicéenne et d'art renaissant. Les visiteurs entraient par des murs de pierre faits pour intimider, passaient sous des voûtes peintes destinées à séduire, et accédaient aux salles supérieures où se décidait le destin de Florence. Aujourd'hui encore, debout dans la cour de Michelozzo, en écoutant le murmure de la fontaine de Verrocchio, on perçoit les strates d'histoire, la République médiévale, les ducs Médicis, l'alliance des Habsbourg, les soldats et clercs qui s'y pressaient chaque jour. Ce rez-de-chaussée était le seuil entre la Florence ordinaire et le monde du pouvoir, des cérémonies et des légendes qui se déployaient à l'étage. La naissance de la salle des 500. Imaginez Florence à la fin du XVIe siècle. La ville tremble entre foi et pouvoir. La puissante famille Médicis a été chassée, et le fougueux moine dominicain Jérôme Savonarole tonne ses sermons dans le Duomo. En 1494, Florence se proclame à nouveau république, décidée à rejeter les tyrans et à embrasser la volonté du peuple. Mais une république a besoin d'une maison, d'un espace assez vaste pour accueillir son nouveau conseil de citoyens. Ainsi, en 1495, débute la construction de la plus grande salle jamais bâtie à l'intérieur du Palazzo della Signoria, la salle des 500. Son nom même venait du Concilio Maggiore, le grand conseil des 500 citoyens chargés de façonner les lois et le destin de Florence. La salle fut conçue par Simone del Pollaiolo, dit « Il Cronaca ». Longue de près de 54 mètres, large de 23 et haute de 18, elle surpassait toutes les autres salles civiques de l'époque. Elle devait incarner la force de la République florentine vaste, solennelle et monumentale. Origine de la salle. Le Salone dei 500, salle des 500, fut construit en 1494-1495 lorsque le frère dominicain Girolamo Savonarole prit brièvement le contrôle de Florence après l'expulsion des Médicis. Elle fut conçue par Simone del Pollaiolo, dit Il Cronaca, pour accueillir le nouveau grand conseil de 500 membres, d'où son nom. La salle était et reste la plus vaste de toute Florence, mesurant environ 54 mètres de long et 23 mètres de large. Première tentative de décoration, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Lorsque les Médicis reprirent le pouvoir au début du XVIe siècle, le gonfalonier Piero Soderini commanda à deux grands maîtres de décorer les murs de la salle par des fresques célébrant les victoires militaires républicaines de Florence. Léonard de Vinci, 1503-1506. Il reçut la mission de représenter la bataille d'Anghiari, 1440, où Florence vainquit Milan. Léonard expérimenta une nouvelle technique, utilisant de l'huile et de la cire sur l'enduit mural. Mais la méthode échoua, les pigments coulèrent et l'œuvre fut abandonnée. Seuls des croquis et des copies ultérieures, comme le dessin de Rubens, en préservent le souvenir célèbre pour son furieux combat de cavalier. Michel-Ange Buonarroti, 1504-1505. Il devait peindre la bataille de Cassina, 1364, victoire florentine sur Pise. Michel-Ange prépara des cartons à l'échelle réelle, devenus légendaires pour leur figure musculeuse. Mais il ne réalisa jamais la fresque, appelée à Rome par le pape Jules II. Ses dessins furent si admirés que de jeunes artistes vinrent les étudier, malheureusement, ils furent plus tard détruits. Ainsi, aucun de ses chefs-d'œuvre ne fut achevé sur les murs. Les Médicis et la redécoration par Giorgio Vasari. Au milieu du XVIe siècle, le duc Cosme Ier de Médicis voulut que la salle célèbre son règne. En 1563, il confia à Giorgio Vasari, son peintre et architecte de cour, et biographe des artistes, la tâche de rénover et de décorer entièrement la salle. Le programme de Vasari. Plafond, 1563-1565. Un vaste plafond à caissons en bois, composé de 39 panneaux peints, conçu avec l'aide de l'architecte Bartolomeo Ammanati. Les sujets glorifient Cosme Ier, Florence et la dynastie médicéenne, mythologie, allégorie et bataille. Murs. De grandes fresques représentent les victoires florentines sur Pise et Sienne, moment clé de la consolidation du pouvoir des Médicis. La prise de Sienne. La conquête de Porto Ercole. La victoire de Marciano in Val di Chiana, 1554. Ces immenses scènes de bataille couvrent les murs entiers et exaltent les triomphes militaires du duc. Statue. Vasari fit aussi installer des sculptures dans la salle, dont le génie de la victoire inachevée de Michel-Ange, placé en 1565, transféré plus tard au Bargello. Le mystère de la peinture cachée de Léonard. L'une des grandes légendes de la salle est que Vasari aurait préservé derrière ses fresques la bataille d'Anghiari inachevée de Léonard. En 2011, des experts ont utilisé des sondes derrière le mur de Vasari et ont détecté des pigments similaires à ceux employés par Léonard, bien que la théorie reste incertaine. La phrase « Cerca trova, cherche et tu trouveras », peinte sur une bannière de bataille dans la fresque de Vasari, alimente l'hypothèse qu'il s'agissait d'un indice. Aujourd'hui, le Salone dei Cinquecento est la plus grande et la plus décorée des salles de Florence, une scène politique où se sont croisés rêves républicains, puissance médicéenne et génie artistique. Les visiteurs d'aujourd'hui contemplent la vision triomphale de Vasari, mais les ombres de Léonard et de Michel-Ange demeurent, faisant de la salle un symbole à la fois d'accomplissements grandioses et de chefs-d'œuvre perdus. Mais la politique florentine n'a jamais été stable. Bientôt, les marées de la fortune allaient de nouveau changer. Savonarole, le feu et le destin. Savonarole, le moine qui inspira la création de cette salle, la voyait comme un temple de pure démocratie. Ici, les citoyens devaient se réunir non pour s'enrichir, mais pour gouverner dans la lumière de la vertu. Mais en 1498, seulement 3 ans après son achèvement, la même ville qu'il avait acclamée se retourna contre lui. Accusé d'hérésie, Savonarole fut arrêté, jugé et exécuté brûlé sur le bûcher sur la Piazza della Signoria, à quelques pas du palais. La salle des 500 survécut, mais elle avait déjà été témoin de son premier drame de pouvoir et de trahison. Le retour des Médicis et un nouveau rôle. Au début du XVIe siècle, la famille Médicis revint à Florence. Avec elle, une nouvelle vision pour la salle, non plus une chambre démocratique, mais une scène de grandeur médicéenne. En 1503, le gonfalonier Piero Soderini commanda à deux des plus grands artistes de l'histoire de décorer les murs de scènes de victoires militaires florentines. À Léonard de Vinci, la tâche de peindre l'épique bataille d'Anghiari. À Michel-Ange Buonarroti, celle de représenter la bataille de Cassina. C'était un affrontement de génie, Léonard, maître du mouvement et du drame, et Michel-Ange, sculpteur des corps héroïques. La bataille d'Anghiari de Léonard de Vinci. Léonard prépara une fresque monumentale montrant les chevaliers florentins aux prises avec les forces milanaises. En son centre, un tourbillon d'hommes et de chevaux luttant pour une bannière, une scène si violente, si intense, que Giorgio Vasari la qualifia plus tard de « chef-d'œuvre de fureur et de puissance ». Mais Léonard expérimenta une nouvelle technique, appliquer les pigments sur l'enduit chauffé. L'essai échoua, la peinture coula, les figures se brouillèrent, et la grande fresque fut abandonnée. Pourtant, des copies subsistent. Rubens et d'autres artistes conservèrent des croquis du chef-d'œuvre de Léonard, assurant que sa légende ne s'éteindrait jamais. La bataille de Cassina de Michel-Ange. Michel-Ange, de son côté, imagina des soldats se baignant dans l'Arno, soudainement attaqués par l'ennemi. Il dessina des figures musculeuses bondissant dans l'action, leurs corps se tordant d'énergie. Mais Michel-Ange ne commença jamais à peindre. En 1505, le pape Jules II le convoqua à Rome pour concevoir son tombeau et, plus tard, peindre la voûte de la chapelle Sixtine. Florence le perdit à l'histoire. Les deux plus grands cycles de fresques qui auraient pu transformer la salle ne furent jamais réalisés. Mais leurs fantômes persistent. Certains croient même que la peinture de Léonard repose encore derrière les fresques de Vasari, qui inscrivit discrètement la phrase « Cerca trova, cherche et tu trouveras » sur une bannière de bataille, peut-être un indice secret vers l'œuvre perdue. Cosme Ier et la transformation par Vasari. Lorsque Cosme Ier de Médicis accéda au pouvoir en 1540, le Palazzo Vecchio devint un palais ducal. Cosme voulait que la salle ne soit plus un lieu de débat républicain, mais un théâtre de triomphe médicéen. Il fit appel à Giorgio Vasari, peintre, architecte et biographe des artistes de la Renaissance, pour transformer la salle. Vasari éleva le plafond, créant une toiture à caissons décorée d'allégories de la grandeur florentine. Il peignit d'immenses fresques sur les murs, glorifiant les victoires médicéennes sur Pise et Sienne. Les batailles n'étaient plus des luttes républicaines, elles devinrent une propagande dynastique, célébrant Cosme comme le sauveur de la Toscane. Les visions inachevées de Léonard et de Michel-Ange disparurent derrière la splendeur de Vasari. La salle devint un monument à la gloire du pouvoir médicéen. Une scène de politique et de pouvoir. Au fil des siècles, le Salone dei Cinquecento continua de servir de scène à l'histoire. Il accueillit des cérémonies ducales, des représentations théâtrales et des événements politiques. Au VIe siècle, lorsque Florence devint brièvement la capitale d'une Italie unifiée, 1865-1871, la salle servit de chambre au Parlement national. Imaginez le gouvernement naissant de l'Italie réuni sous les cieux peints de Vasari. Aujourd'hui, la salle est l'un des lieux les plus impressionnants de Florence, un espace où chaque pierre et chaque coup de pinceau murmurent des histoires d'ambition, de génie et de destin. Vivre l'expérience de la salle aujourd'hui. En vous tenant à l'intérieur, levez les yeux vers le plafond doré de Vasari. Chaque caisson raconte une histoire des victoires de Cosme. Regardez les fresques monumentales sur les murs, des guerres figées dans le triomphe, des guerriers capturés dans une bataille éternelle. Puis, dans votre imagination, retirez les couches de peinture. Essayez d'apercevoir les chevaux furieux de Léonard, les corps ondoyants de Michel-Ange, et le rêve d'une république qui emplissait jadis cette vaste salle des voix de 500 citoyens. Ceci est la salle des 500, un lieu où le passé de Florence respire encore, où l'art et la politique se sont affrontés, et où les échos de Léonard, Michel-Ange, Vasari, Savonarole et les Médicis flottent toujours dans l'air. Guide audio du Palazzo Vecchio, partie 2. Appartement des Médicis, chapelle d'Éléonore, passage secret et tour d'Arnolfo. Bienvenue à nouveau, cher invité d'Youtour. Vous venez de quitter le monumental Salone dei 500, la salle des 500, où le destin de Florence fut forgé dans le choc de la politique et de l'art. Désormais, notre parcours nous entraîne plus loin, dans l'univers intime des Médicis, les souverains qui transformèrent cette forteresse en palais de la Renaissance. Ici, au-delà des salles publiques, s'ouvre un autre univers, les appartements privés du duc Cosme Ier de Médicis et de son épouse espagnole, Éléonore de Tolède. Les Médicis s'installent. En 1540, Cosme Ier prit une décision qui allait changer à jamais le Palazzo Vecchio. Jusqu'alors, ce bâtiment avait été le siège austère de la République florentine, une forteresse civique destinée à intimider. Mais Cosme ne s'intéressait pas à la modestie républicaine. Il construisait une dynastie. Et il choisit donc d'installer sa famille dans ce palais médiéval, en faisant sa résidence et sa cour. Imaginez la transformation, des salles de pierre glaciale réchauffées par des tapisseries, des murs peints de fresques mythologiques, des plafonds dorés à la feuille. Ce qui avait été la maison du peuple devint la scène du faste princier. Au cœur de cette transformation se trouvait Éléonore de Tolède. Éléonore de Tolède, la duchesse espagnole. Éléonore n'était pas une épouse ordinaire. Née en Espagne, fille du vice-roi de Naples, elle apportait avec elle une immense richesse, de puissantes connexions et un goût raffiné. Cosme l'adorait, et ensemble ils eurent 11 enfants, des héritiers qui assureraient la lignée médicéenne pour des générations. Mais Éléonore était bien plus qu'une mère. Elle fut une mécène des arts, une femme de foi et une figure politique influente. Elle voulait une résidence qui reflète son rang, son héritage espagnol et sa piété. Ses appartements au Palazzo Vecchio devinrent ainsi parmi les espaces les plus beaux de Florence. Les appartements d'Éléonore de Tolède. En entrant dans les pièces d'Éléonore, vous pénétrez dans un écrin de la Renaissance. Sa salle d'audience fut décorée par Giorgio Vasari et son atelier de scène célébrant des femmes fortes et vertueuses de l'Antiquité, héroïnes de foi et de loyauté, reflet des propres vertus d'Éléonore. Sa chambre n'était pas seulement un lieu de repos. C'était une scène de maternité dynastique, ornée de tapisseries et de fresques qui associaient son image à des reines et des déesses légendaires. Mais l'espace le plus enchanteur de tous était sa chapelle privée. La chapelle d'Éléonore, un joyau de foi. Cachée dans son appartement se trouve une petite chapelle éblouissante, peinte par Agnolo Bronzino, peintre de cour et maître du maniérisme. En y entrant, laissez vos yeux s'habituer à l'éclat des couleurs. Bronzino recouvrit les murs de fresques bibliques. L'Annonciation, où la Vierge reçoit le message de l'ange. La Nativité, avec des figures délicates aux tons lumineux et précieux. La Déposition, le corps du Christ descendu de la croix, rendu avec l'élégance froide de Bronzino. Le plafond éclate de visions célestes, anges et saints flottant dans un ciel radieux. C'était le sanctuaire d'Éléonore, son refuge intime face aux exigences de la vie de cour. Ici, elle priait, entourée non pas de grandeur, mais d'intimité. La vie à la cour médicéenne. Au-delà de ces murs sacrés, la vie quotidienne du Palazzo Vecchio bourdonnait d'activité. Imaginez les couloirs remplis de pages, de gardes, de courtisans, de secrétaires, d'artistes et de diplomates. Dans la salle d'audience de Cosme, des ambassadeurs venus d'Espagne, de France et du Saint-Empire romain germanique attendaient, anxieux, conscients que Florence sous les Médicis n'était plus une petite république, mais un duché en pleine ascension. Dans les appartements d'Éléonore, des musiciens jouaient des madrigaux, des couturières brodaient des robes, et des précepteurs enseignaient aux enfants médicéens le latin, la philosophie et les sciences. Le palais devint une cité dans la cité, un théâtre où politique, famille, art et foi s'entremêlaient. Le studio Lo de Cosme, un monde de secrets. Non loin des grandes salles se trouve l'une des pièces les plus intrigantes du palais, le studio Lo de Cosme, ou cabinet d'études. Ce n'était pas un bureau au sens moderne, mais une chambre des merveilles. Ses murs étaient couverts de peintures de scènes mythologiques, chacune dissimulant derrière elle des placards secrets. À l'intérieur étaient conservés des minéraux rares, des instruments scientifiques, des manuscrits et des trésors des collections médicéennes. C'était une pièce de secret, où le duc se retirait pour méditer, entouré de symboles de nature, d'alchimie et de mythologie. Les passages secrets de Vasari. Mais le Palazzo Vecchio recelait plus que des secrets symboliques, il en dissimulait de bien réels. Cosme et Vasari conçurent un réseau de couloirs et d'escaliers cachés courant dans les murs du palais. Ces passages secrets permettaient au duc de circuler sans être vu, de fuir en cas de danger, ou de surprendre ses courtisans par des apparitions soudaines. Un passage célèbre relie le Palazzo Vecchio à la Galerie des Offices, puis traverse le Ponte Vecchio jusqu'au Palais Pitti. Ce corridor de Vasari permettait aux Médicis de se déplacer entre leurs résidences sans se mêler aux foules de Florence. Même à l'intérieur du palais, ces portes et escaliers cachaient murmures des intrigues, fuites, conspirations et paranoïa de souverains qui ne faisaient confiance qu'à peu de gens. La tour d'Arnolfo, pouvoir et prison. Levons maintenant les yeux vers le ciel, vers la Torre di Arnolfo, la tour d'Arnolfo, du nom de l'architecte Arnolfo di Cambio qui conçut le palais en 1299. S'élevant à 95 mètres au-dessus de Florence, la tour était à la fois symbole de fierté civique et outil de défense. De là, les gardes pouvaient surveiller les incendies, les invasions ou les révoltes. Les cloches sonnaient pour rassembler les citoyens en cas de crise. Mais la tour n'était pas seulement un poste de guet. C'était aussi une prison. L'alberghetto, la petite auberge de misère. À l'intérieur de la tour se trouve une minuscule cellule connue sous le nom d'alberghetto, ou « petite auberge ». Le nom peut sembler doux, mais sa réalité était sombre. C'est ici que les prisonniers politiques attendaient leur sort. Parmi les plus célèbres se trouvait Cosme de Médicis l'Ancien, emprisonné ici en 1433 avant d'être exilé de Florence. Il revint plus tard en triomphe, fondant la dynastie qui régnerait durant des siècles. Un autre prisonnier fut Savonarole, le fougueux moine, qui passa ses dernières nuits ici avant d'être traîné sur la place voisine et exécuté. Les murs étroits de la cellule résonnent encore des fantômes du passé tourmenté de Florence, rappellent que pouvoir et chute n'étaient séparés que d'un battement de cœur. La vue d'en haut. Si vous gravissez la tour aujourd'hui, vous serez récompensé par l'une des vues les plus à couper le souffle de Florence. Les toits aux tuiles rouges s'étendent vers les vertes collines toscanes. Le dôme du Duomo se dresse avec majesté, le campanile de Giotto élève sa silhouette, et l'Arno scintille au soleil. C'est une vue qui relie le passé au présent, un panorama que dirigeants, gardes et prisonniers ont autrefois partagé. Ici, l'on ressent le battement de cœur de Florence, une ville qui a survécu aux guerres, aux pestes, aux conspirations et aux révolutions, renaissant toujours dans la beauté. Guide audio du Palazzo Vecchio, partie 3, pouvoir civique, conspiration et hôtel de ville. Une forteresse du pouvoir civique. En parcourant ces corridors de pierre, souvenez-vous que le Palazzo Vecchio fut plus qu'une demeure pour des ducs, il fut d'abord et avant tout la maison de Florence elle-même. Quand la construction débuta en 1299, la vision d'Arnolfo di Cambio n'était pas celle d'un palais royal, mais d'une forteresse de la démocratie. Le bâtiment fut conçu pour incarner la force de la seigneurie, le conseil dirigeant de Florence composé de prieurs choisis au sein des corporations de la ville. Les murs crénelés, la haute tour et l'épaisse structure défensive envoyaient un message clair, c'était le palais du peuple, dressé comme un bouclier contre la tyrannie. À l'intérieur, des salles accueillaient les priori dell'arti, les représentants des corporations, colonne vertébrale de la République. Ici, on débattait des lois, on formait des alliances et on rendait la justice. Mais Florence ne fut jamais à l'abri des rivalités. Sa richesse et sa fierté en faisaient à la fois un joyau et un champ de bataille. Et le Palazzo Vecchio devint la scène de certaines des conspirations les plus dramatiques de la Renaissance. L'ombre de la conspiration. Gouverner Florence était à la fois un privilège et un péril. Le pouvoir attirait les ennemis comme les papillons à la flamme, et dans ses murs même, les murmures de trahison résonnaient souvent plus fort que le glas de la tour. L'un des épisodes les plus infâmes de l'histoire florentine fut la conjuration des Pazzi en 1478. Bien qu'elle se soit déroulée dans le Duomo, ces ondes de choc ébranlèrent le Palazzo Vecchio pendant des décennies. La puissante famille Pazzi, alliée au pape, complota pour assassiner Laurent de Médicis, Laurent le Magnifique, et son frère Julien. Un dimanche matin, durant la grand-messe à la cathédrale Santa Maria del Fiore, les conjurés passèrent à l'acte. Julien fut tué, mais Laurent échappa à la mort. La ville s'embrasa. Les conjurés furent capturés et traînés ici, au Palazzo Vecchio. Certains furent exécutés en étant précipités des fenêtres de cette même tour, leurs corps pendant comme un avertissement. Dès lors, le palais ne fut plus seulement le cœur du gouvernement, mais aussi un lieu de jugement, de vengeance et de crainte. Machiavel et la République. Lorsque les Médicis furent de nouveau exilés en 1494, Florence entra dans une nouvelle phase républicaine. Et avec elle s'éleva l'un des esprits politiques les plus brillants et controversés de l'histoire, Niccolò Machiavelli. Machiavel servit comme secrétaire de la République, travaillant dans des bureaux à l'intérieur du Palazzo Vecchio. D'ici, il rédigeait des rapports, organisait la diplomatie et dirigeait la milice florentine. Il croyait que les citoyens soldats étaient les véritables défenseurs de la liberté, et non les mercenaires. Il soutenait que la politique ne relevait pas des idéaux, mais du pouvoir, de la nécessité et de la survie. Ses écrits, rassemblés plus tard dans Le Prince et les Discours, s'enracinèrent dans les expériences vécues entre ses murs. Imaginez-le arpentant ses couloirs, plume en main, méditant sur l'équilibre fragile des forces qui maintenaient Florence en vie au milieu des ennemis et des rivaux. Même après son exil, l'ombre de Machiavel demeura ici, rappelle que la politique tient autant du calcul que des idéaux. Le procès de Savonarole. Le Palazzo Vecchio devint aussi un tribunal du destin. Après des années de sermons apocalyptiques, Girolamo Savonarole fut arrêté en 1498 et amené ici pour y être jugé. Torturé et interrogé dans ces mêmes salles, il fut condamné comme hérétique. Peu après, il fut conduit sur la place extérieure, exécuté et brûlé, ses cendres dispersées dans l'Arno. Pendant des siècles, les Florentins chuchotèrent que son fantôme errait encore dans les couloirs du palais, hurlant contre la corruption. De la République au duché. En 1530, tout changea encore. Les Médicis revinrent, cette fois-ci soutenus par la puissance impériale, et Florence cessa d'être une république. Le Palazzo Vecchio fut rebaptisé Palazzo Ducale, le Palais Ducal, tandis que Cosme Ier en faisait sa résidence. Les anciennes salles du Conseil furent transformées en galeries de propagande médicéenne. La démocratie céda la place au pouvoir dynastique. Pourtant, le bâtiment ne perdit jamais son rôle civique. Même Palais Ducal, il resta le cerveau administratif de Florence. Et lorsque Cosme s'installa plus tard au Palais Pitti, cette forteresse reprit le nom qu'elle porte aujourd'hui, Palazzo Vecchio, l'ancien palais. Six siècles, une nation est née. Des siècles plus tard, le Palazzo Vecchio se retrouva à nouveau au centre de l'histoire. En 1865, Florence fut choisie comme capitale du nouveau royaume d'Italie. Le Palazzo Vecchio devint le siège du Parlement italien. Imaginez l'enthousiasme. Dans cette forteresse médiévale, les représentants d'une nation nouvelle se réunissaient pour forger l'avenir de l'Italie. Des discours résonnaient sous les plafonds peints de Vasari, unissant des régions longtemps divisées. Florence ne garda ce statut que 6 ans, avant que la capitale ne soit transférée à Rome, mais le palais conserve à jamais l'honneur d'avoir accueilli les premiers débats parlementaires de l'Italie unifiée. Le Palazzo Vecchio aujourd'hui. Nous voici au présent. Le Palazzo Vecchio n'est plus la demeure des ducs ni la prison des moines. Aujourd'hui, il est à la fois musée et hôtel de ville de Florence. À l'intérieur, vous trouverez des chefs-d'œuvre, des salles historiques et des bureaux civiques. Le maire de Florence travaille toujours entre ces murs, reliant passé et présent dans une continuité vivante. Chaque année, des mariages sont célébrés dans la Sala Rossa, des conférences se tiennent dans ces salles, et des visiteurs du monde entier foulent les mêmes pavements que Machiavel, Savonarole, Cosme et Eleonore. Le Palazzo Vecchio n'est pas un simple monument. C'est un palais vivant, un édifice qui respire, fonctionne et sert, comme il le fait depuis plus de 700 ans. Réflexion avant de poursuivre. En cet instant, prenez le temps de réfléchir. Le Palazzo Vecchio a été une forteresse de la démocratie. Une scène de conspiration. Un palais ducal. Une prison. Un parlement. Un hôtel de ville moderne. Ces pierres sont imprégnées des voix de toutes les époques, maîtres des guildes, moines, ducs, républicains, révolutionnaires, artistes et citoyens. Peu de bâtiments au monde portent une histoire aussi stratifiée, où chaque recoin raconte un récit, et où chaque récit reflète l'éternelle lutte entre liberté et pouvoir. De la politique à l'art. Bienvenue à nouveau, cher invité d'YouTour. Jusqu'ici, nous avons parcouru les grandes salles du pouvoir, écouté les histoires de conspiration, de moines, de ducs et de républiques. Tournez maintenant le regard vers l'âme artistique du Palazzo Vecchio. Chaque salle de ce palais n'est pas qu'une pièce, c'est une scène, une galerie, une fresque vivante du passé florentin. Parcourons-les ensemble, lentement et attentivement, comme si le temps lui-même nous guidait. Les Quartieri Monumentali, appartements monumentaux. Nous commençons par les Quartieri Monumentali, les grands appartements créés par Giorgio Vasari pour le duc Cosme Ier et Éléonore de Tolède. Ici, l'art n'a jamais été une simple décoration, c'était de la propagande en peinture. Chaque plafond, chaque mur, chaque panneau racontait une histoire destinée à élever la famille Médicis. Levez les yeux, Vasari peignit d'intriquées allégories des vertus, des planètes et des triomphes de Florence. Les plafonds étincellent de cadres dorés, chaque caisson étant une épopée miniature. Les appartements se divisaient en deux ensembles. Le quartier d'Iléonix, dédié au pape médicéen, célébrant la grandeur religieuse de la famille. Le quartier de Gli-il-Monti, où les forces mêmes de la nature feu, eau, air et terre sont représentées comme si elles s'inclinaient devant les Médicis. En franchissant ces pièces, vous traversez un univers peint où l'art et la politique se fondent sans couture. La Sala delle Carte Geografiche, la salle des cartes. Entrons maintenant dans l'une des salles les plus fascinantes, la Sala delle Carte Geografiche, la salle des cartes. Créée au milieu du XVIe siècle par Vasari et le cosmographe Ignazio Danti, cette salle était une merveille de science et d'imagination renaissante. Autour de vous, d'énormes panneaux peints montrent les cartes du monde connu, l'Italie, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Rappelez-vous, c'était une époque où le globe se découvrait encore, où de nouvelles terres stupéfiaient l'imagination. Au centre se dressait un globe magnifique, jadis parmi les plus grands du monde, symbole de la curiosité et de l'ambition des Médicis. La vocation de cette salle était autant symbolique qu'intellectuelle, montrer que, sous les Médicis, l'influence de Florence s'étendait à l'échelle du globe. Remarquez comme certaines terres présentent des formes étranges, témoignant des limites du savoir de l'époque. Pourtant, même dans leur imperfection, ces cartes incarnent l'émerveillement de la découverte. Le studiolo de François Ier. Pénétrons ensuite dans l'une des salles les plus mystérieuses du palais, le studiolo de François Ier, fils de Cosme et d'Éléonore. Petite, sans fenêtres et entièrement couverte de peintures et d'armoires, cette pièce était un refuge privé, un monde d'alchimie, d'art et de science. Chaque panneau représente des scènes mythologiques liées aux quatre éléments et au savoir humain. Derrière nombre de peintures se cachaient des placards secrets où François conservait des minéraux rares, des instruments scientifiques et des curiosités exotiques venues du monde entier. Imaginez-vous dans ce coffret secret, entouré des mystères de l'art et de la nature. C'est comme entrer dans l'esprit d'un prince de la Renaissance fasciné par la beauté, obsédé par la connaissance, attiré par les secrets. La Sala dei Gigli, salle des Lys. L'une des plus splendides salles civiques est la Sala dei Gigli, la salle des Lys. Son nom vient de la fleur de lys, emblème de Florence, qui orne ses murs. Peinte par Domenico Ghirlandaio et son atelier, la salle est un chef-d'œuvre d'élégance florentine. On y trouve l'un des trésors du palais, la statue Judith et Holoferne de Donatello, symbole de la vertu civique triomphant de la tyrannie. Dans cette salle, on recevait les ambassadeurs, on proclamait les lois, et l'on affichait la fierté de Florence. Aujourd'hui encore, les lys dorés scintillent comme pour rappeler que beauté et politique ont toujours dansé de concert dans cette ville. La salle d'Hercule. Une autre salle présente des fresques d'Hercule, le héros mythologique de force et de courage. Pourquoi Hercule ? Parce qu'il fut le protecteur légendaire de Florence, un symbole qui résonnait chez des citoyens se voyant forts, résilients et défiants face aux tyrans. Les Médicis adoptèrent eux aussi Hercule, se présentant comme héritier de ses vertus, vainqueur des épreuves et souverain par force quasi divine. La chapelle d'Éléonore, à nouveau. Nous avons déjà évoqué la chapelle privée d'Éléonore de Tolède, peinte par Bronzino. Mais elle mérite une nouvelle halte, car cette pièce est autant intimité qu'œuvre d'art. Observez le style de Bronzino, froid mais précieux, visage de porcelaine, étoffe miroitante, anges éthérés. C'était le maniérisme à son apogée, un monde où le réel se polissait en une élégance quasi divine. Pour Éléonore, ce n'était pas qu'une question de beauté. C'était son encre spirituelle, l'endroit où elle priait pour ses enfants, son mari et sa ville. Le buste caché de Michel-Ange. Parmi les surprises du palais se trouve un buste attribué à Michelangelo Buonarroti, le fameux Brutus. On pense qu'il représente l'assassin romain de César, symbole de la liberté contre la tyrannie. Pour les Florentins, Brutus n'était pas seulement de l'histoire ancienne, il reflétait leur propre lutte contre la domination médicéenne. Michel-Ange, qui aimait Florence tout en se heurtant souvent à ses dirigeants, tailla ce visage d'un mélange de fierté et de défi. Caché dans le palais, il demeure une protestation silencieuse en marbre. Tapisseries et triomphes. N'oubliez pas d'admirer les tapisseries médicéennes qui ornent de nombreuses salles. Tissées dans les ateliers grand-ducaux, elles représentent des scènes bibliques, des exploits héroïques et des triomphes des Médicis. Leurs couleurs riches et leurs dessins minutieux apportaient chaleur aux salles de pierre, transformant des murs froids en étoffes chatoyantes de récits et de prestige. Chaque tapisserie n'était pas seulement une œuvre d'art, mais aussi un instrument politique, rappelant que la grandeur des Médicis enveloppait chaque recoin de la vie. Un palais de strates. En passant de salle en salle, souvenez-vous, le Palazzo Vecchio n'est pas une histoire unique, mais une tapisserie de couches. Forteresse médiévale. Conseil républicain. Résidence médicéenne. Wunderkammer de la science. Galerie des cartes. Chapelle de dévotion. Salle civique des lys et des héros. Chaque pièce reflète non seulement les Médicis, mais le peuple de Florence, sa fierté, ses angoisses, ses ambitions, sa foi. C'est comme si les pierres mêmes du palais étaient peintes, sculptées et tissées avec l'identité de la ville. Guide audio du Palazzo Vecchio, partie 5, secrets, légendes et mystères. Bienvenue au Palais des Secrets. Chers invités d'Youtour, vous avez déjà vu la grandeur du Salon dei Cinquecento, l'élégance de la chapelle d'Éléonore et la splendeur des plafonds peints par Vasari. Il est temps maintenant de découvrir une autre face du Palazzo Vecchio, celle des chuchotements, des ombres et des mystères. Car ce palais n'est pas seulement histoire, il est légende. Derrière ces murs demeurent des secrets qui déconcertent encore les historiens, et des récits que les Florentins se transmettent de génération en génération. Commençons par l'un des indices les plus intrigants, laissé bien en évidence. Le mystère de Cerca Trova. Dans le Salon dei Cinquecento, au milieu des immenses fresques de victoires médicéennes peintes par Vasari, se cache un détail petit mais curieux. Sur une bannière de bataille verte, peinte en hauteur, figurent deux mots, Cerca Trova, cherche et tu trouveras. Pourquoi Vasari a-t-il peint ces mots ? Certains y voient un message secret. Derrière les fresques de Vasari pourrait encore se trouver la bataille d'Anghiari inachevée de Léonard de Vinci, le chef-d'œuvre perdu de la Renaissance. Vasari a-t-il préservé l'œuvre de Léonard en peignant par-dessus, la dissimulant sans la détruire ? A-t-il laissé ces mots comme indice aux générations futures ? Des investigations modernes, à l'aide de scanners et de sondes, ont révélé des traces de pigments derrière le mur, preuve que peut-être les chevaux et soldats furieux de Léonard sont toujours là, en attente d'être retrouvés. Ainsi, lorsque vous levez les yeux et lisez « Cerca Trova », souvenez-vous, le Palazzo Vecchio garde peut-être encore le fantôme de Léonard entre ses murs. Le « Graffiti, secret de Michel-Ange ». À l'extérieur du palais, sur la Piazza della Signoria, regardez de près la pierre près de l'entrée. Vous y verrez le contour à peine visible d'un profil d'homme gravé dans la paroi. Selon la légende, Michelangelo Buonarroti l'aurait tracé lui-même. On raconte qu'alors qu'il parlait avec quelqu'un sur la place, Michel-Ange, toujours remuant, aurait distraitement incisé ce profil dans la pierre avec son burin, peut-être le portrait de l'importun qui l'ennuyait, peut-être une autocaricature, ou juste une marque ludique de génie. Aujourd'hui encore, les Florentins l'appellent « l'importuno di Michelangelo », l'importun de Michel-Ange. Un petit rappel que le plus grand des artistes a lui aussi laissé son graffiti sur ses pierres. Le corridor de Vasari, un passage secret. Peut-être le secret le plus célèbre, le corridor de Vasari. Construit en 1565 pour le duc Cosme Ier par Giorgio Vasari, ce passage relie le Palazzo Vecchio, traverse la Galerie des Offices, passe au-dessus du Ponte Vecchio, jusqu'au Palais Pitti. Pourquoi ? Parce que Cosme et sa famille voulaient se déplacer en sécurité et en privé dans la ville, loin des regards et des poignards du peuple. À l'intérieur, des fenêtres permettaient d'observer la ville en contrebas. Plus tard, il fut décoré d'une collection unique de portraits, dont des autoportraits d'artistes venus du monde entier. Aujourd'hui encore, le corridor symbolise le besoin médicéen de contrôle, de secret et de sécurité. C'est un pont entre des palais, mais aussi entre deux mondes, le public et le privé, le pouvoir et la paranoïa. Le fantôme de Savonarole. Le Palazzo Vecchio n'est pas seulement truffé d'art caché et de passages. On dit aussi qu'il est hanté. Le fantôme le plus célèbre est celui de Girolamo Savonarole, le moine dominicain qui prêchait contre la corruption, la richesse et le vice. Après son arrestation, il fut détenu dans la cellule de l'Alberghetto, à l'intérieur de la tour d'Arnolfo. Torturé, condamné et exécuté sur la place en contrebas, il aurait laissé un esprit inquiet. Les Florentins murmurent que, les nuits d'orage, une silhouette voilée d'une robe de moine parcourt les couloirs, murmurant prière ou malédiction. Certains jurent entendre des chaînes racler les dalles. Fantôme ou mémoire, la présence de Savonarole hante ces lieux, rappelle des heures les plus sombres de Florence. Murmure de conspiration. Le Palazzo Vecchio a aussi servi de théâtre à d'innombrables complots. Certains sont célèbres, d'autres ne sont que rumeurs. On raconte que des chambres secrètes furent aménagées dans les murs pour espionner des réunions. Des escaliers cachés permettaient aux ducs d'apparaître soudainement et de surprendre leurs courtisans. Des messages circulaient à travers les peintures, des symboles se cachaient dans les fresques, des codes s'inscrivaient dans la décoration. Une histoire évoque une armoire à poison des Médicis, où l'on gardait des fioles de mixture mortelle pour éliminer des rivaux discrètement. Est-ce vrai ? Nul ne le sait avec certitude. Mais à Florence, où l'art et l'intrigue étaient frères, tout semblait possible. Les griffures des prisonniers. Dans les cellules de la tour, les prisonniers politiques gravaient souvent des marques dans la pierre. Certains laissèrent des prières, d'autres des malédictions. L'un grava une simple phrase, « Chi mi legge, preghi per me, chi me li, prie pour moi ». Ces traces demeurent, témoignages silencieux de ceux qui ont vécu et sont morts ici. Elle rappelle que derrière l'éclat de la richesse médicéenne, le palais abritait aussi la détresse, la peur et le châtiment. Légende de la cour aux lions. Dans la cour du palais se trouvaient jadis des cages abritant des lions vivants, symbole de Florence. Les animaux, cadeaux et trophées, rugissaient comme des rappels de la puissance de la cité. Les enfants se faufilaient pour entendre gronder les fauves, les voyageurs s'émerveillaient, et les courtisans murmuraient que tant que les lions vivraient, Florence resterait invaincue. Quand le dernier lion mourut, certains y virent l'augure du déclin de la ville. Un palais d'infini mystère. Ainsi, en explorant le Palazzo Vecchio, souvenez-vous, toutes les histoires ne sont pas dans les livres. Certaines sont discrètement gravées dans la pierre, peintes sous des couches de fresques, ou chuchotées la nuit par des ombres qui refusent de disparaître. Le Palazzo Vecchio est un palais de pouvoir, certes. Mais c'est aussi un palais de secrets. Un palais qui respire encore. Cher invité d'YouTour, vous avez traversé des siècles, conseils républicains, cours médicéennes, corridors secrets, prisons et merveilles peintes. Mais le Palazzo Vecchio n'est pas qu'un monument du passé. C'est un palais qui respire aujourd'hui. Contrairement à beaucoup d'édifices historiques figés en musées silencieux, ce palais poursuit la même mission qu'au Moyen Âge, il est le cœur battant de la vie civique florentine. L'hôtel de ville de Florence. Entrez dans les bureaux modernes cachés derrière ces murs, et vous découvrirez quelque chose de remarquable. Le maire de Florence et le conseil municipal gouvernent toujours depuis ici. Les mêmes salles qui accueillirent jadis maîtres de guildes, prieurs et ducs voient aujourd'hui réunion du conseil, cérémonies civiles et administration quotidienne de la ville. La double identité du bâtiment, à la fois musée et palais du gouvernement, le rend unique au monde. Où ailleurs peut-on marcher sous les fresques de Vasari le matin, puis assister à un mariage ou à une séance officielle l'après-midi? Mariage dans la Sala Rossa. L'un des usages modernes les plus enchanteurs du palais, la Sala Rossa, la salle rouge, avec ses tentures cramoisies et ses lustres dorés, où des couples venus du monde entier viennent se marier dans l'édifice le plus emblématique de Florence. Imaginez la joie, tandis que l'histoire observe depuis les murs, de nouveaux récits s'écrivent, des vœux s'échangent, des vies commencent dans ce même palais qui a vu tant de destinées se nouer. Pour beaucoup, c'est l'expérience la plus romantique que Florence puisse offrir. La tour d'Arnolfo aujourd'hui. Gravissez la tour d'Arnolfo et vous comprendrez pourquoi ce palais a résisté au temps. De là-haut, Florence s'étend à vos pieds, le Duomo s'élève comme une montagne de marbre, l'Arno traverse la ville, les collines toscanes ondulent à l'horizon. Chaque jour, des visiteurs du monde entier montent ces marches, sur les traces des gardes, des prisonniers et des ducs. Et en contemplant ce panorama, souvenez-vous, vous voyez la même vue que Cosme de Médicis, Savonarole et même Machiavel. Une vue qui a peu changé en 700 ans. L'expérience du musée. En tant que musée, le Palazzo Vecchio offre des trésors à ne pas manquer. Le Salone dei Cinquecento, avec les immenses fresques de Vasari et le mystère de la peinture perdue de Léonard, peut être caché sous la couche de Vasari. Le Studiolo de François Ier, un cabinet de curiosité sans égale. La salle des cartes, où les rêves renaissants du monde se déploient sur des panneaux peints. La chapelle d'Éléonore, irradiant l'élégance sacrée de Bronzino. La salle des lys, miroitante avec la Judith et Holoferne de Donatello et les fleurs de lys dorées. Chaque salle est à la fois galerie et récit et tout ensemble forme un parcours où se mêlent art, politique, science et foi. Le Palazzo Vecchio de nuit. Pour ceux qui visitent après le coucher du soleil, le palais se transforme encore. Éclairé d'une lumière dorée, sa façade de pierre paraît presque vivante, comme si les siècles luisaient de l'intérieur. Les visites nocturnes dévoilent des recoins secrets, des salles vides pleines d'échos et des vues sur Florence scintillant dans l'obscurité. On dit que le palais est plus magique la nuit, quand les foules s'éclipsent et que l'histoire chuchote plus clairement. Le Palazzo Vecchio aujourd'hui, symbole vivant de Florence. Aujourd'hui, le Palazzo Vecchio domine toujours la Piazza della Signoria avec les mêmes murs crénelés et la fière tour d'Arnolfo qui marque le ciel florentin depuis 1299. Et pourtant, ce bâtiment n'est pas un monument figé. Il a changé, s'est adapté, s'est redéfini à chaque génération et il continue de le faire. De la forteresse au musée civique. Au 1er siècle, le Palazzo Vecchio fut un palais-forteresse, siège de la République florentine, puis résidence ducale de Cosme Ier de Médicis. Lorsque les Médicis s'installèrent au palais Pitti au XVIe siècle, l'ancien palais ne se tut pas, il se transforma peu à peu en musée civique et en hôtel de ville, préservant sa double identité de siège gouvernemental et de trésor culturel. Aujourd'hui, le maire de Florence et le conseil municipal se réunissent encore entre ses murs. Peu de palais renaissants en Europe restent aussi étroitement liés à leur fonction civique originelle. Les visiteurs qui arpentent cours et salles ne découvrent pas seulement un musée, ils entrent dans l'histoire toujours en train de s'écrire du gouvernement florentin. Un musée de pouvoir et de beauté. Dans le même temps, le Palazzo Vecchio est l'un des grands musées de Florence. Ces salles se déploient comme les chapitres d'un vaste livre d'histoire. Le Salone dei Cinquecento, avec les fresques monumentales de Vasari, ébloui encore par sa démesure et par le mystère de la bataille d'Anghiari de Léonard, peut être tapi sous la peinture de Vasari. Les appartements privés des ducs médicéens, aux fresques somptueuses, plongent le visiteur dans le quotidien des souverains florentins. Le Studiolo de François Ier, écrin du maniérisme, fascine toujours par ses portes secrètes et ses cabinets de curiosité. La tour d'Arnolfo demeure l'un des meilleurs belvédères de Florence, d'où citoyens et voyageurs contemplent toit rouge et dôme de Brunelleschi. Chaque salle raconte aujourd'hui une histoire non seulement du passé, mais aussi de la fierté que Florence continue de porter en son identité. Une scène pour la culture et la communauté. Au-delà du musée, le Palazzo Vecchio est une scène culturelle. Expositions, conférences, concerts et événements civiques animent ces espaces. Les Florentins se rassemblent dans sa cour pour des fêtes, des chercheurs du monde entier étudient ses fresques et ses archives. Il comble l'écart entre maisons civiques et icônes culturelles mondiales. Symbole de l'esprit florentin. Plus que tout, le Palazzo Vecchio est aujourd'hui le symbole de Florence. Ses rugueux murs médiévaux incarnent la force de l'ancienne République. Ses élégants intérieurs renaissants reflètent la créativité et l'ambition des Médicis. Et son rôle civique vivant montre comment la ville continue d'équilibrer passé et présent. Passer sa porte, c'est rencontrer Florence dans son intégralité. La mémoire des batailles pour la liberté. Le génie des artistes et des architectes. La continuité de la vie civique. Et l'étreinte de millions de visiteurs qui viennent chaque année se tenir là où l'histoire s'est faite. Le Palazzo Vecchio d'aujourd'hui est plus que de la pierre, plus que de l'art. Il est Florence durable, en mouvement, vivant. Message d'au revoir. Et maintenant, chers invités d'Youtour, notre voyage au cœur du Palazzo Vecchio touche à sa fin. Vous avez marché là où Machiavel travailla, où Savonarole pria, où Cosme régna, où Vasari peignit, où des prisonniers pleurèrent, où des artistes rêvèrent. Souvenez-vous, ce palais n'est pas une relique, c'est Florence elle-même, vivante de mémoire. En regagnant la Piazza della Signoria, levez encore les yeux vers la tour. Ces pierres sont les mêmes depuis 7 siècles, désormais, elles gardent aussi votre souvenir. Merci d'avoir voyagé avec Youtour. Que l'esprit de Florence, sa beauté, son courage et sa créativité sans fin restent avec vous longtemps après votre départ. Toutes les sources de ce contenu audio ont été puisées, avec liberté, dans les archives de l'UNESCO, les ressources du Vatican et les collections culturelles d'Alexandrie. Grazie, thank you, et arrivederci de la part d'Youtour.